bonsoir à tous. Les agriculteurs bio ont manifesté aujourd'hui, abasourdis par la suspension du plan Ecophyto. Ils réclament un plan d'urgence digne de ce nom. Le remplacement des profs absents pose problème dans certains établissements du secondaire. Le rectorat semble à court de solutions. Histoire et patrimoine du Bressuirais prépare une galerie de 100 portraits de personnages qui ont marqué l'histoire locale. Éric Simon, un jeune retraité originaire de Bressuire, a décidé de se lancer dans un tour d'Europe en vélo. Il en profite pour collecter des fonds pour une association qui sensibilise aux troubles de l'autisme.
La météo à l'issue du journal, on attend le même temps pour demain.
Les agriculteurs bio ont donc manifesté aujourd'hui à Paris, notamment devant les difficultés rencontrées par la filière. Ils réclament un plan d'urgence de 273 millions d'euros pour compenser les pertes 2023. Ils sont en passe d'en obtenir 50 millions seulement. La suspension du plan Ecophyto est aussi très mal vécue par ces agriculteurs qui estiment que la transition écologique n'est pas une option, mais une nécessité. Guy Moreau est le président d'Agrobio en Nouvelle-Aquitaine.
Le plan Ecophyto, à l'origine, il était donc c'était des mesures de transition agroécologique incitatives. C'est pas punitif, en fait, c'était incitatif. Et je pense que c'est un grave retour en arrière. Je pense que ça va à l'encontre, en plus, de l'intérêt de la France agricole, si je puis dire, qui est quand même une image de qualité, de produit. Ça va à l'encontre, évidemment, de tout ce qu'on peut espérer d'avancer sur la santé, y compris les agriculteurs eux-mêmes. Donc pour nous, c'est un recul en arrière inquiétant.
L'agriculture bio se sent donc abandonnée par le gouvernement alors qu'ils estiment aller dans le bon sens, un constat assez décourageant pour ces agriculteurs.
Le risque en 2024, effectivement, c'est qu'il y ait des gens qui se tournent de la bio, effectivement, soit par problème de revenus immédiat, c'est pour beaucoup, et pour d'autres, je pense que le signal en fait est très mauvais, puisque dans ce cas-là, on a l'impression que la culture dite de qualité, qui respecte la biodiversité et l'environnement, et puis donc la qualité de l'eau, en fait, elle n'est pas aidée. Je pense que c'est un recul, oui, inquiétant, en fait, mais qui, à mon avis, est contre-productif à moyen et long terme pour la France. Ça laisse quand même un goût amer, et puis en même temps, il y a quand même aussi des fonds publics qui sont quand même intervenus en amont. Je veux dire, voilà, tous les gens qui sont passés en bio, ils ont aussi des aides à la conversion, ce qu'on appelle. Ça, c'est quand même des fonds publics qui ont été utilisés, et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu un gaspillage d'argent public, quelque part aussi. Il faut savoir, par exemple, qu'en 2022, un agriculteur bio avait à peu près 200 euros de l'hectare d'aide, et aujourd'hui, on en a 92. Donc, c'est quand même un problème.
Le Mélois Guy Moreau, président d'Agrobio en Nouvelle-Aquitaine, a noté que la filière bio en Deux-Sèvres a été reçue aujourd'hui à la préfecture.
Le remplacement des profs absents pose problème.
L'exaspération monte même dans certains établissements avec des absences prolongées de certains enseignants qui ne sont donc pas remplacés. La FCPE, l'association des parents d'élèves, dénonce cette situation par la voix de la coprésidente Karine Gautron.
Ça se concentre surtout sur le français et là les situations durent. En fait, elles durent depuis la rentrée pour certaines. On est sur des élèves qui en plus soit pour certains vont passer le brevet des collèges, quoi, le DNB, pour d'autres préparent soit en seconde, soit en première le bac de français. Donc oui, une vraie inégalité. On a par exemple sur le lycée de la Venise Verte où une classe de première a eu plus de 2 mois. Sans enseignant de français, donc 2 mois sur une année qui en compte à peine 10, une année scolaire, ça provoque des inégalités. Ils demandent là aujourd'hui des aménagements pour le bac de français.
Il n'y a donc pas suffisamment de remplaçants pour pallier les absences des professeurs. Le rectorat est bien conscient du problème, mais l'équation n'est pas simple à résoudre, admettent Bénédicte Robert, rectrice de l'Académie, et Jean-Jacques Vial, secrétaire général de l'Académie.
Effectivement, on observe qu'il y a un taux d'absence qui a augmenté et qu'on a sous-calibré notre capacité de remplacement par rapport au taux d'absence que nous constatons cette année.
Ouais. On a à prendre en compte un certain nombre d'éléments dans une équation. Donc, il y a l'accueil des élèves dans les classes, c'est la priorité. Et ensuite, on a à travailler sur les problématiques de remplacement. Ça fait 2 ans qu'on crée des emplois. La rentrée dernière, on en a créé 19 sur le remplacement. À cette rentrée, on en crée 12 de plus. Donc on a bien une prise en considération de ces éléments-là. Après, le taux d'absence croît plus vite que notre capacité à créer des emplois. En tout cas, on en fait le nécessaire. Mais quand on est sur des pics d'absence, comme c'est le cas en ce moment, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se retrouve avec des désajustements entre les moyens mis à disposition et la réalité des absences. Des ajustements qui, d'ici un mois, vont probablement se résorber et on se retrouverait avec des enseignants qui n'auraient pas de remplacement à réaliser. Donc voilà, la problématique est à réguler sur l'ensemble de l'année.
Alors des solutions sont proposées, mais elles ne sont pas vraiment acceptables au collège de l'APSI. De l'enseignement à distance a été mis en place depuis lundi, ce n'est évidemment pas satisfaisant pour la FCPE.
Bien sûr, elle n'est pas satisfaisante. D'un côté, on dit que c'est mieux que rien, mais ce mieux que rien, quand on est rendu début février, c'est plus acceptable. C'est en plus un collège dont on a annoncé la fermeture à la rentrée prochaine. Donc c'est dans une ambiance assez désagréable pour les élèves qui y sont et pour les parents. On n'a aucun doute que les équipes du rectorat font leur maximum, mais là aujourd'hui on a des absences qui sont programmées.
Karine Gautron, co-présidente de la FCPE 79, qui exprime aussi des réserves sur le choc des savoirs avec la mise en place de groupes de niveau favorisant les écarts entre les élèves. La Fédération des parents d'élèves s'interroge aussi sur la capacité à recruter des enseignants supplémentaires en français et en maths. Un piéton âgé de 65 ans a été percuté par une voiture avenue de la gare hier en début de soirée à Cerizay. Le conducteur de la voiture est âgé de 62 ans. Les deux hommes résident dans le secteur du Cerizéen. Le piéton a été pris en charge par les pompiers et évacué à l'hôpital.
Après l'inauguration, les portes ouvertes.
L'agglomération du Bocage-Bressuire en partenariat avec la ville de Cerizay a mené des travaux de rénovation du multi-accueil des petits mômes et du relais petite enfance. Les espaces ont été totalement repensés, permettant d'améliorer les conditions d'accueil des enfants et le travail des professionnels. Les aménagements vont permettre d'ouvrir 3 places supplémentaires, soit 28 places au total. L'inauguration est donc prévue ce samedi 10 février à 10h30 et les habitants pourront découvrir les lieux lors des portes ouvertes de 14h30 à 17h également samedi.
La souscription est lancée.
Un fruit d'un travail de 2 ans. Histoire et patrimoine du Bressuirais, 100 portraits à découvrir, sortira en 600 exemplaires le premier week-end de septembre. Ce livre de 134 pages, couleur imaginée par l'association Histoire et patrimoine du Bressuirais, met à la une des hommes et des femmes natifs du Bocage qui ont marqué la ville de Bressuire et ses communes associées du Moyen-Âge à nos jours. Qu'ils soient connus ou non, n'était pas la question. Écoutez le président d'Histoire et patrimoine du Bressuirais au micro de Jacqueline Pinon, Guy Marilène.
Remarquable, mais pas forcément célèbre. Remarquable parce que l'activité qu'elles ont faite, leur métier, a marqué Bressuire. Je pense notamment à une ouvrière de la conserverie du Dolo. Totalement inconnue, ou presque. Mais par contre, le Dolo a marqué, marque encore, la ville de Bressuire. On est allé chercher, je le dis sincèrement, une prostituée de la Bobinette. Beaucoup de gens ont connu la Bobinette par le passé, maison de tolérance. Et puis cette prostituée, évidemment, elle est totalement inconnue, mais en même temps, elle représente ces femmes qui ont pratiqué, certains diront leur art, à Bressuire pendant 3/4 siècle. Cette maison de tolérance, elle a, à un moment donné, participé à la vie de la ville de Bressuire.
Il y avait un critère essentiel, il faut que les personnes qui figurent dans le bouquin soient décédées.
Oui, parce que ça aurait été très délicat d'ouvrir le livre à des gens encore vivants, parce que forcément, on aurait suscité des jalousies. Donc pour éviter cela, on a décidé qu'il fallait que les gens soient décédés.
On y rencontre aussi des politiques, des artistes, des ecclésiastiques, des hommes d'église. Un livre écrit à plusieurs mains par des contributeurs passionnés d'histoire. Et c'est Aude-Marie Clergeau, graphiste à la tête de Coup de Créa, qui a été confiée la mise en page à l'esthétisme affirmé, hein, privilégiant la couleur et les illustrations, dont des photos pour beaucoup inédites. La souscription pour ce livre, Histoire du Bressuirais, sans portrait à découvrir, est donc lancée au prix de 22€ au lieu de 25 lors de sa sortie le 7 septembre. Bon de souscription à retrouver sur le site de l'association ou dans certains commerces. Nous y reviendrons plus longuement avec Guy Marilène dans notre chronique Chemin d'histoire en Bocage, d'ores et déjà programmée le 4 avril prochain à 14h30. À propos d'histoire, le roi Louis XI a laissé son empreinte à Thouars, la cité qu'il affectionnait et où il séjournait régulièrement. Didier Guillois, membre de la Chapte, retracera ce lien entre le monarque et la ville lors de la prochaine conférence de la Société d'Histoire Locale, le lundi 12 février à 20h30 à l'auditorium du château de Thouars. Entrée 3€ pour les non-adhérents.
Éric Simon a un petit vélo dans la tête.
C'est le nom du projet porté par ce jeune retraité originaire de Bressuire qui vit aujourd'hui à Angers et qui a décidé de se lancer dans un tour d'Europe à vélo. Ce dernier ne part pas dans l'inconnu puisqu'il a déjà dans les mollets la traversée de l'Argentine, de l'Uruguay et d'une partie du Brésil, 1300 km, le canal de Nantes à Brest. Sur 450 km, la vélo française aussi, ou encore la Loire à vélo. Le 20 avril prochain, au départ d'Angers, Éric Simon s'élancera pour 6500 km. Une autre paire de manches avec au menu la traversée du Jura, de la Suisse, de la Bavière, de l'Autriche, de la Slovénie, de l'Italie, avant de revenir en France par les Pyrénées. Éric Simon au micro de Patrice Bemanangy.
J'avais envie de faire quelque chose, comme on dit, quelque chose de ma vie. Évidemment, dès qu'on est à la retraite, on a beaucoup plus de temps et l'occuper intelligemment.
De quelle manière vous avez tracé justement ce parcours ? Est-ce qu'il y a eu des critères particuliers ?
Oui, il y en a eu un, c'est-à-dire que ça inquiétait évidemment ma femme et mes enfants que je sois sur la route 3-4 mois. Donc j'ai décidé de relier, on va dire, les véloroutes, ce qu'on appelle les véloroutes, et je me suis dit, autant prendre les plus belles. Pour avoir lu pas mal et vu pas mal de gens partir comme ça, ben on a peur de pas y arriver, on a peur des mauvaises, on peut avoir des mauvaises rencontres, mais bon, ça, la mauvaise rencontre, elle peut être au coin de la rue chez nous, hein. C'est aussi ce qu'on dégage, hein, par rapport aux autres. Donc je crois déjà beaucoup aux belles rencontres. Après les peurs, oui, bah il y a la peur de se faire mal et pas de finir le parcours, la peur de tomber malade et puis voilà des choses comme ça ou de je sais pas une fracture, je ne sais quoi. Je crois que dès qu'on monte sur le vélo et qu'on part la première journée, les peurs premier soir, c'est oublié quoi.
80 étapes jalonneront le parcours d'Éric Simon. Et si son projet se réalise à titre privé, il a surtout un caractère solidaire puisqu'une cagnotte a été créée en ligne sur Litchi afin d'en faire bénéficier une association. Les internautes sont ainsi invités à faire un don ou acheter des kilomètres parcourus en faveur de l'association Le Grand Bleu, basée dans le Maine-et-Loire, association qui sensibilise aux troubles de l'autisme. Éric Simon.
La souffrance des autres, ça m'a toujours touché profondément, de voir les enfants malades. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire en associant ma passion et essayer, je sais pas, bon, c'est une petite chose, hein, c'est une goutte d'eau dans la mer. On a créé une cagnotte pour ça, hein, sur Litchi. Tout l'argent récolté sur la cagnotte ira à l'association. Hein. D'ailleurs, c'est l'association qui a créé la cagnotte. Moi, je m'autofinance. Je vois la cagnotte est lancée, il y a déjà pas mal de dons et tous les dons sont importants, même les plus petits. Hein. Ce qui est très intéressant sur les cagnottes, c'est que les gens, même modestes, peuvent cacher le montant. C'est-à-dire si ça, ils sont dérangés par le fait de donner peu, comme je répète, hein, toutes les sommes sont importantes. Donc on peut masquer son nom ou on peut masquer la somme.
Le périple à vélo d'Éric Simon en faveur de l'association Le Grand Bleu, ce sera à suivre sur Facebook ou Instagram. Départ d'Angers le 20 avril pour un retour prévu le 10 juillet.
L'actualité sportive du soir en basket, Cholet joue en Turquie en ce moment même.
Et le coup d'envoi a été donné à 18h. On joue le premier carton. 19-17 actuellement pour les Turcs. Si les Choletais veulent recoller à Malaga qui compte 2 victoires en 3 matchs, il va falloir s'imposer ce soir sur le parquet d'une équipe qui a battu Strasbourg, hein, quasiment déjà hors course dans cette poule. Tofas est 10e au classement de la Ligue turque. Les Choletais sont privés ce soir de Enze Kouazi.
Le club de basket de Choret va avoir les yeux tournés vers la ville d'Anvers en Belgique.
L'une des joueuses de l'équipe, Fatou Dieng, va en effet tenter de décrocher avec le Sénégal sa qualification pour les JO de Paris. Elles vont affronter les États-Unis, le Nigeria et la Belgique. L'enjeu est simple, il est de terminer à l'une des 3 premières places. Fred Duflo, le président chorésien, se réjouit de voir l'inoxydable Fatou, 40 ans, dans ce type de défi, même s'il devra se passer de sa meneuse de jeu à Limoges.
Et elle a la chance de faire le tournoi olympique, donc Anvers avec le Sénégal. Et elle va jouer le 3 matchs, Nigeria, Belgique, États-Unis. Bon, États-Unis, je pense qu'elle n'a aucune chance de gagner. Mais si elle gagne deux autres matchs, ben elle fera encore les Jeux Olympiques de Paris. Donc pour nous, c'est une sacrée ambassadrice. Mais donc c'est génial, sauf qu'elle ne sera pas là à Limoges le week-end prochain. Donc c'est vrai que sans elle, c'est toujours un handicap important, quoi.
Fred Duflo à propos de Fatou Dieng, la basketteuse chorésienne qui va donc affronter avec le Sénégal, les États-Unis, le Nigeria et la Belgique du 8 au 11 février.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Eh ben, il a fait très beau aujourd'hui.
C'est le même type de temps qui nous est annoncé pour demain. Domination des nuages, plus ou moins de pluie et toujours autant de vent. Des rafales à 50-60 km/h. Température un peu plus haute ce jeudi avec déjà 11 degrés en moyenne. Demain matin, un mercure qui progressera jusqu'à 13-14 degrés dans l'après-midi.
Merci Fabien pour toute l'info près de chez vous. C'était le dernier rendez-vous aujourd'hui. Retour demain matin.
Demain matin à 7h avec Patrice Bemanangy. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.